Bonjour, c'est Marc Page, l'édition littéraire de Radio Caraïbes. Et oui, ce n'est pas la voix d'Yves qui sera absent pendant quelques temps. Donc c'est Charles Ancé. Je vais essayer de remplacer Yves. Alors là, c'est difficile. Hein. C'est 10 000 fois plus dur encore que Pompidou qui remplace De Gaulle. Là, je ne sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Aujourd'hui, j'aurai deux invités. Alors évidemment, c'est les joies du direct. Il y en a un qui n'est pas là. J'espère qu'il pourra venir. C'est Gérard Viry-Babel qui a mis en page un livre aux éditions Fluviatiales. C'est « Les grands succès du cinéma introuvable » de Dylan Pellot. Et heureusement, j'ai quand même un invité qui est là. C'est Raymond Hiss. Bonjour Raymond.
Bonjour.
Qui vient de sortir alors chez Eddy Livres un livre, un livre évidemment, qui c'est La Dame au Mont. Voilà.
La Dame de Valaumont, oui.
La Dame de Valaumont, oui, ça y est, je commence mal. Voilà, alors Raymond, il est connu pour avoir déjà publié des nouvelles de science-fiction, alors aussi bien en Canada, en Belgique, en Roumanie. Et là, il nous arrive avec un livre qui m'a surpris, puisque c'est... Alors, je ne veux pas dire une intrigue amoureuse, un ménage à trois. Enfin, c'est difficile. C'est, en fait, je verrais plus ça comme un exercice de style où l'intrigue est dévoilée au lecteur par petites touches. Mais ce qui surprend, alors moi, ce qui m'a surpris, je le dis comme ça, c'est que l'action est toujours traitée à la première personne. C'est-à-dire que le premier chapitre, c'est... Laurence qui parle. Non. Après, c'est... Le garçon, comment il s'appelle ?
Il y a Florence et Laurent, les deux.
Florence et Laurent, c'est ça. Donc, ils parlent tous les deux et en disant « je ». Alors évidemment, quand on passe d'un chapitre à l'autre, je dis « je », qu'est-ce qui se passe ? Et puis au bout d'un moment, on comprend que c'est deux personnages différents qui racontent les points de vue chaque fois sur une même action. C'est bien ça.
C'est ça, oui.
Donc c'est par petites touches, on arrive à finalement un peu comprendre la situation. Et aussi, on se déplace, c'est-à-dire qu'il y a des petites touches qui sont au début d'une rencontre amoureuse, et puis après, on évolue, on se retrouve justement au Valaumont, et on rencontre Robert, où là, le personnage n'est jamais traité à la première personne.
C'est les autres qui en parlent.
C'est les autres qui en parlent, voilà. C'est un peu ça que tu as voulu faire, c'était...
Ça, c'est les autres qui en parlent. Robert est absent pour des tas de raisons dont on s'aperçoit au cours de l'histoire, et on trouve la raison définitive à la fin, puisqu'on apprend ce qu'est devenu Robert. Alors c'est ma deuxième tentative de roman éclaté, c'est-à-dire de roman qui n'est pas construit de manière linéaire, mais où l'histoire est une sorte de miroir éclaté, et les personnages, donc, qui sont Laurent et Florence, revivent un peu leur passé, de manière fragmentée. Leurs souvenirs leur reviennent, ils ont à peu près 50 ans et revoient leur jeunesse. Alors ils le font tout simplement parce qu'ils sont en train de lire un livre.
Voilà.
Un livre.
Alors, et ça, on comprend bien à la fin pourquoi.
Pourquoi, effectivement. Voilà, oui. Parce que le troisième personnage, qui est Robert, qui a disparu, avec qui ils étaient très liés dans leur jeunesse, a disparu et revient un peu d'une étrange manière en ayant écrit un livre. Alors, non pas qu'il raconte leur histoire, mais c'est Robert a écrit un roman qui se passe dans un tout autre milieu. Et pas tout à fait à la même époque, mais brusquement, au dernier chapitre, ça fait-il, il y a des clins d'œil, et Laurent et Florence s'aperçoivent, en fait, que par des clins d'œil, et là, par les deux, à travers trois autres personnages, qui s'appellent Sabine, Philippe et Antonia,
voilà.
Mais par rejet, par jeu de miroir, ils s'aperçoivent qu'elle a parlé d'eux, et leur histoire, leur jeunesse, leur réapparaît, leur ressaute, disons, à la figure, quoi.
Oui. Alors, bon, je dis, c'est un peu déconcertant au début, parce que moi, j'avais jamais lu de roman éclaté comme ça. Je me dis, mais où ils vont en venir,
parce qu'il faut que le lecteur travaille un petit peu. C'est pas tout l'acheter du bouquin, il faut qu'il bosse un peu, quand même.
Non, mais c'est... Bon, ça, évidemment, au bout d'un moment, on se prend dans le truc, surtout que, bon, il y a des clins d'œil. Alors, tu nous dis, bon, c'est pas un ménage à trois, c'est un... Et deux autres.
Voilà, et deux autres.
C'est donc une grande complicité entre deux filles. Hein, c'est ce qu'on on croit comprendre ça aussi. C'est parce que on va jamais trop dans les détails. Et donc lui, il a, bon, on peut pas raconter le roman non plus, mais il va se retrouver amoureux de l'une et l'autre. Et après, il va falloir bien falloir faire un choix. Et il se marie avec une des deux.
Oui. Et l'autre, Robert se trouve un petit peu rejeté. Et finit par... les personnages de Florence et de Robert ont des psychologies très différentes. Florence, au départ, ce sont deux amis d'enfance qui sont très liés l'une à l'autre. Et elle se partage Laurent à un certain moment. Et puis, à un certain moment, il faut choisir. Et c'est Florence qui fait le choix. À la place, disons presque dans le dos de Laurent d'ailleurs. Mais
c'est même elle qui fait tous les choix, en fait, on va dire. Dans tout ce qui se passe d'important, c'est toujours elle. C'est elle qui va faire venir Robert, c'est elle qui va... pour cette histoire du mariage, c'est quand même elle qui intrigue.
Oui, bien sûr, c'est elle qui tire les ficelles. Alors elles ont eu, il y a des, comment on dit en français déjà, des flashbacks dans le roman,
ouais.
Qui expliquent que l'initiation amoureuse des unes et des autres était très différente. Celle de Laurent d'une part et d'autre part celle des deux filles.
Alors, je me suis demandé pendant un moment, mais pourquoi tu t'es lancé dans un roman comme ça? Parce que toi qui es plutôt dans la... Enfin, je connaissais plus la science-fiction, mais pourquoi tu te lances dans une histoire comme ça?
Disons que la science-fiction, oui, j'ai sur les six ouvrages que j'ai publiés jusqu'à présent, il y en a deux sur six qui sont de la science-fiction. Hein. Donc les autres, L'île aux immortels est un roman d'aventure, un roman historique, et les trois autres, dont celui-ci, sont des romans, on pourrait appeler des romans contemporains, quoi. Mais bon, il y a quand même une influence des littératures de l'imaginaire dans cette façon de casser l'histoire, de dévoiler l'histoire par fragments. Et à travers aussi, il y a un roman dans le roman, bon, c'est une technique qui a déjà été employée,
oui.
Mais qui vient aussi fractionner, fractionner le récit.
Oui, c'est intéressant, parce qu'il y a, c'est vrai qu'on n'est pas, prévenu, c'est-à-dire qu'à un moment, on change d'époque, et on essaie de relier au chapitre précédent, qui est dans une autre époque, dans une petite touche comme ça.
Et avec des personnages qui sont... Alors, les personnages dans le roman de Robert, qui s'appelle La Dame de Malaumont, Sabine, Philippe et Antonia, ne sont pas des doubles exactement des trois autres. Leur histoire est relativement différente, mais il y a des points de ressemblance qui font que cela évoque à Laurent et à Florence leur histoire personnelle, à travers les aventures de ces trois personnages, de Sabine, Philippe et Antonia. Et il y a une permanence aussi, l'Italie qui est présente dans les deux histoires.
Et puis le lieu, la maison de Valomont, quoi.
La maison de Valomont, la petite maison. Mmh. Et puis l'Italie aussi, puisque dans l'intrigue initiale, Robert est professeur d'italien.
Voilà.
Et dans ce roman, La Dame de Malaumont, la scène principale se déroule à Florence.
Tu nous en lis un extrait, si tu as...
Mais,
sélectionné.
Oui, alors des extraits très courts, hein, oui. Qui donnent, disons, le ton du roman. Une lettre, tout d'abord, que Robert adresse à Florence. Florence est partie en stage à Rennes. Et avant de partir, Robert a fait la connaissance de Laurent. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà la lettre donc écrite au cours de cette affaire que Florence envoie à son ami Robert. « Ma Flo bien-aimée, ça y est, j'ai couché avec le beau Laurent. L'essayer, c'est l'adopter, disais-tu. N'en suis pas encore là, rassure-toi, mais tu as quand même perdu ton pari. Je l'attendais de pied ferme. Il s'est pointé un soir, 3 jours seulement après ton départ. Il avait de gros soucis, le pauvre chéri. Une notice technique à traduire de l'italien. » Tu parles si j'ai été dupe. Ça a été réglé en 2 coups de cuillère à peau et nous avons passé le reste de la soirée à parler de notre Florence. Ce qui ne l'empêcha pas de me dévorer des yeux. C'est vrai qu'ils sont beaux. Dommage que sa moustache les cache. Je voyais venir le moment où son insistance allait devenir pesante. Bah, il fait partie de ceux qui savent s'en aller. Bien entendu, il était venu à pied et tu connais ta Robert et il lui a proposé un brin de conduite. Pendant tout le trajet, nous n'avons plus parlé de toi. Arrivé devant chez vous, j'ai cru qu'il allait me proposer le coup d'étrier. Mais non, il a semblé hésiter. Comme je ne disais rien, il s'apprêta à descendre. Il posait déjà sa main sur la portière. Alors je l'ai embrassé. Je l'ai eu par surprise, mais il a vite embrayé. Ce fut comme tu me l'as dit, sauf qu'il faudra qu'il coupe sa moustache. Deuxième acte. Nous avions convenu de nous revoir le samedi, une petite balade de santé dans la forêt. J'ai donc emmené le loup dans le bois, à l'endroit que tu connais bien. J'avais mis ma jupe plissée, la bleue, que tu m'as faite pour mon anniversaire. Celle qui me fait de si jolis mollets. Je te dis pas l'amour sur le siège arrière de la dodoche, j'en ai encore les reins houlus. Mais je te trouve bien sévère avec Laurent. Il était déjà raide alors que je n'avais pas encore coupé le contact. Il mérite 15 sur 20. Voilà, il me reste encore une semaine avant ton retour. Mais je ne le reverrai plus d'ici là. C'est toi que j'ai envie de retrouver à présent. Nos séparations étaient plus longues l'an dernier et pourtant, ceci me pèse davantage. Dans la hâte de te revoir et de parler de lui, ta Roberte fidèle.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après, on a le récit de cette même action par Laurent, et il y a des petites différences. On voit quand même que, on pourrait dire, le travail de mémoire n'est pas identique chez les protagonistes.
Oui, alors il y a la distance, parce qu'il parle à 25 ans d'intervalle.
Voilà, c'est pas tout à fait... On se dit, est-ce qu'il parle du même moment?
Oui, alors ça fait pareil. C'est la difficulté, d'ailleurs, dans un roman, de raconter deux fois la même histoire, donc, parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses, ou ils ont oublié, ou ils ont travesti la réalité.
Chacun se fait sa vérité.
Chacun se fait sa vérité, ils s'aperçoivent en fait que leur... il y a eu pas mal de mensonges dans leur relation, pas mal de missions dans leur relation, notamment dans leur relation avec Robert.
Non, ça m'a intéressé ce truc-là. Je me dis comment, c'est vrai, après tu repars sur un même fait, mais il y a des toutes petites choses,
des petits décalages qui font que... C'est un peu du décalage temporel, on n'est pas toujours loin des littératures de l'imaginaire.
Pas mal vu. Oui. Alors, bon, il n'y aura pas une suite, là. C'est pas possible qu'il y ait une suite sur une histoire comme ça. Mais dans ce genre-là, est-ce que tu en feras encore, alors
ce genre-là, je ne sais pas. Je n'ai pas de roman en tête. Actuellement, je prépare, je mets la touche finale à un petit roman. Alors, je reviens à la science-fiction. Un petit roman de science-fiction jeunesse. C'est un genre dans lequel je ne me suis encore pas lancé, dans la littérature jeunesse. Et puis, j'ai encore un recueil de nouvelles de fantastique en préparation. Donc, ce sera encore quelque chose de tout à fait différent.
Alors, pour chez qui, là, on va parler de l'éditeur. C'est... Alors, la Dame de Valomont, c'est Edilivre.
Edilivre, oui.
Et c'est un éditeur qui se trouve où? Comment ça marche?
Il est dans la région parisienne, mais enfin, ce n'est pas le fond du problème. C'est un éditeur qui s'est lancé il y a quelques années et qui, à mon avis, va casser les reins aux éditeurs qui font du compte d'auteur. C'est un éditeur assez ouvert qui édite assez facilement, alors avec toutes les ambiguïtés que ça peut avoir. Hein, on peut se méfier des éditeurs qui ne refusent rien. Mais il édite, contrairement au compte d'auteur, il édite gratuitement, on ne paye rien. Donc il joue de ce point de vue un véritable rôle d'éditeur. Il fait de l'impression à la demande, donc il n'y a pas de tirage. Et donc, les ouvrages sont disponibles, sont visibles sur son site, edilivre.com, mais également sur Amazon ou sur chapitre.com. Souvent, d'ailleurs, en édition à la fois papier, édition numérique.
D'accord. Alors, donc, il y a les pauses musicales dans les émissions. Alors là, pour... il fallait parler de la campagne, de l'amour, etc. Je propose tout ça parce qu'au bois de Chaville, de Pierre Détail, 1950.
C'est à peu près la même époque que le roman.
Voilà.
Ouais. Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est joufflu, tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain tu seras...
Oui, alors là, il y a une erreur d'aiguillage, on est... Donc, j'ai mal écrit sur la pochette ce qu'on devait envoyer, donc une erreur technique. Et voilà donc les bois de Chaville, c'est ça? On est bon.
Ce jour-là, au bois de Chaville, il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai. Au mois de mai, dit le proverbe, fais ce qu'il te plaît. On s'est allongé sur l'herbe et c'est ce qu'on a fait. Comme nous étions sous les branches bien dissimulés, samedi soir et France dimanche n'en ont pas parlé. Le lendemain de cette aventure, nous avons acheté un traité de puériculture et de quoi tricoter. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Quand je songe aux conséquences de ce jour charmant, je me sens rempli d'avance d'un très grand tourment. Car par ma faute il va naître un pauvre ingénu qui va forcément connaître tout ce que j'ai connu. Le pion, l'adjudant de semaine, le meilleur ami, autant de choses inhumaines, plus qu'il n'est permis. Et des tas de choses inutiles, comme les traités de paix, les savants, les sergents de ville et le chef du budget. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. On t'apprendra le code civique et la probité. Si tu les mets en pratique, tu seras exploité. Par contre, si tu t'en balances, tu seras respecté. Et selon toute évidence, tu seras député. Pour te faire faire connaissance de la liberté, tu seras dès ta naissance finement ligoté. Tu pourras souiller ton linge afin de protester. C'est tout de même toi, petit ange, qui sera embêté. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. On t'enverra faire la guerre dans les fantassins, pour que ceux de la dernière soient pas morts pour rien. C'est ce qu'on a dit à mon père et c'est ce qu'on m'a dit. Ça revient de façon régulière, tout comme les radis. Voilà, mon cher petit homme, tout ce qui t'attend. Parce que j'ai croqué la pomme un jour de printemps. C'est peut-être une folie, mais si tu voyais comme ta maman est jolie, tu me pardonnerais d'avoir été à Chaville cueillir du muguet.
Voilà. Tout ça parce que dans les bois de Chaville, c'est le genre de chanson qui traverse les décennies et qui perd pas une ride, je trouve. Bien, alors on est toujours avec Raymond Hiss pour parler de son travail. Donc, La Dame de Valomont vient d'être sortie aux éditions Edilivre et tu travailles aussi sur des nouvelles de science-fiction en ce moment.
Sur des nouvelles de fantastique, j'ai un recueil. Là, j'ai édité donc deux ouvrages de science-fiction, deux recueils de nouvelles, Coup de lune et La bulle d'éternité. Et maintenant, j'ai en route un recueil de nouvelles, mais plus spécialement de fantastique. Donc, j'ai des contacts avec un éditeur. Ça devrait pouvoir se faire en principe en 2015. Mmh. Plus un petit roman, donc un roman jeunesse, de science-fiction jeunesse.
Et ce sera toutes des nouvelles de toi ou avec d'autres auteurs
Non, c'est un recueil de mes nouvelles, oui. D'accord. Pareil, édité, inédite.
Chez quel éditeur, là?
Là, je vois avec. Je suis en train de voir ça avec Rivière Blanche, celui qui a édité La Bulle d'éternité.
Est spécialisé dans ce genre-là.
Il est spécialisé dans la littérature de l'imaginaire, enfin de la science-fiction en particulier. Et pour le roman jeunesse, je suis en train de voir ça avec les éditions Armada. Mais rien n'est encore signé.
On connaît comment ça se passe. Ouais. Alors, tu nous parlais d'imaginaire, justement, et tu es l'animateur d'un concours qui s'appelle La Cour de l'imaginaire, où là, ce sont des nouvelles de science-fiction. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Puisque le prix est remis à Nancy, c'est ça?
Oui, ça se passe à Nancy. Alors, La Cour de l'imaginaire, c'est le nom qu'on s'est donné. On est trois à promouvoir ce projet. Ça a été initialisé
par une écrivaine lorraine qui habite la région nancéenne, qui s'appelle Nadia Harley, et qui nous a embauchés dans cette entreprise, Josette et moi. Donc nous avons lancé en partenariat avec un éditeur de Nîmes, les éditions Lacour, qui n'est pas du tout spécialisé dans la littérature de l'imaginaire, mais qui nous a donné carte blanche pour attribuer un prix à un manuscrit relevant de ces littératures de l'imaginaire. Un ou plusieurs, d'ailleurs on peut éditer un ou plusieurs ouvrages par an. Donc on a commencé à 2012 et on a attribué ce prix à Yvette Omeyran pour Le Chant du Strigoï. Une écrivaine débutante. On a continué l'année suivante avec Brigitte Dujon, pour laquelle on a édité donc Vers les Terres Insoumises, un roman de science-fiction cette fois-ci. Et on a édité également un troisième ouvrage, un recueil de nouvelles de science-fiction de Sonia Kemner, qui s'appelle Paysages d'après. Donc on en est à la troisième édition. On est en train de sélectionner les manuscrits en ce moment. Et on va sûrement éditer un recueil de nouvelles. Et on aura peut-être la possibilité d'en éditer un deuxième. On est en train de lire, de dépouiller les manuscrits, de rayer, de raturer, de changer, etc. Et ensuite, on négocie donc avec l'auteur pour un ouvrage donc, qui devrait sortir au mois d'octobre. Alors, j'indique donc que le concours est permanent, c'est-à-dire que les gens qui veulent nous envoyer des manuscrits, donc entre 200 et 400 000 signes, romans, nouvelles, relevant des littératures de l'imaginaire, eh bien, vous allez voir sur Internet, sur le site qui s'appelle lacourdelimaginaire.com, lacour de l'imaginaire en un seul mot, vous avez d'abord des extraits des trois ouvrages que je viens de vous citer, et également le règlement de ce concours. Donc, je précise que c'est un véritable contrat à compte d'éditeur, donc on ne demande pas d'argent. Mmh. Un petit tirage, c'est vrai, mais le but de la manœuvre est de mettre le pied à l'étrier à un auteur débutant.
Et c'est bien distribué.
C'est distribué par les éditions Lacour, donc ouais. Il y a des dépôts en librairie, qui a un site internet sur lequel vous pouvez aller voir également, qui s'appelle, donc le site internet de Lacour, c'est édition-lacour.com, édition au pluriel, mais vous pouvez y passer en entrant par Lacour de l'imaginaire.
Et je me souviens que la dernière remise du prix, Yves Sartier avait enregistré la remise du prix justement pour cette émission Marque-Page. C'était au Lézard.
Au Lézard à Nancy, oui. Alors nous avions fait venir l'an dernier nos trois auteurs, donc Yvette Omeyran, Sonia Kemner et Brigitte Dujon. Et nous les avions invités au Lézard à Nancy et nous avions fait une soirée donc d'interview, de lecture, etc., qui avait été animée donc par Charles Lancé, par Yves Sartier pour RCN. Et nous avions également invité Pierre Stolz, qui avait écrit des critiques de ses ouvrages dans la rue Bifrost.
Voilà. Donc, pour la cour de l'imaginaire, eh ben, on va s'initier aux langues de l'imaginaire. Ici, c'est Bobby Lapointe, Takati Takité.
Il est vraiment fou allié et il a le visage de son emploi. Bobby Lapointe.
Ce soir, au bar de la gare, Igor Agar et Noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était toc, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tarpaillard du bar. Car encore Igor, il dort, mépris de son oreille. Merveille, un réveil vermeil lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic tac, tic tac, takati takité. Tic tac, tic tac, takati takité. Tic tac, tic tac. T'es cocu, qu'attends-tu? Cuite-toi, t'es cocu. Takataka cuité et quitter ton quartier. Takati takité. Ta tactique était toc, ta tactique était toc. Takati takité. Hôte ta toque et troc, ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau. Quand t'attends d'attaquer contre un taco côté, quatre écus tout compté et quitte ton quartier. Takati takité, takati takité, takati takité, takati takité. Tout à côté des catins, des kati taquinettes, un coquin et des tiques coquettes. Tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué. D'un compte toqué qui comptait tant tiquant, tout un tas de tickets de quai. Quand tout à coup, tic tac tic. Oh ma matin, quel réveil, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie.
Voilà, Takati Takité, c'est carrément des langues étrangères. Donc les langues étrangères, il en est question dans tes romans, La Dame de Valomont, puisque là c'est une traductrice italienne qui est...
Oui, alors Robert est une prof d'italien. Et donc, c'est elle qui, disons, enseignera l'italien au fils de, plus tard, de Florence et de Laurent. Fils d'ailleurs qui, curieusement, s'appellera Robert, ce qui indique assez bien la filiation. Et par la suite, Robert trouvera sa fiancée en Italie, il ramènera une fiancée italienne. Et donc, l'Italie est présente également dans le roman de Robert, qui s'appelle La Dame de Malomont, donc nos deux héros sont en train de dépouiller et qui leur permettent de se remémorer leurs souvenirs de jeunesse. Et l'une des scènes principales de ce roman de La Dame de Malomont se passera justement à Florence. Mais avant, comme j'ai lu tout à l'heure un petit extrait qui me semblait emblématique du roman, je vais lire un petit extrait de La Dame de Malomont, qui lui également est significatif. Donc là, on change de milieu, on a affaire aux héros du roman de Robert, Sabine, Antonia et Philippe. Et ça se passe dans un autre milieu, ça commence dans un château, dont les personnages, d'ailleurs, ne sont pas très aristocratiques, mais enfin, ils ont hérité de ce château. Donc, Philippe accueille Antonia à Malomont. Philippe entraîna Antonia au fond de la salle d'honneur, devant une magnifique cheminée surmontée d'un miroir de Venise. Mais l'intérêt était plus bas, dissimulé par une nappe qui recouvrait la tablette. D'un geste de prestidigitateur, il la troussa et fit signe à la jeune femme d'approcher. Sans la quitter des yeux, il lui laissa le soin de déchiffrer l'inscription encore bien visible qui courait comme une frise sur l'ébrasement. Parmi celles d'alentour, la dame de Malomont mérite de longs détours par son val et par ses monts. Ce compliment d'une mufflerie épaisse, laissé jadis par un prince de la famille royale en hommage à l'hospitalité de la châtelaine, représentait pour Philippe une manière de raffinement aristocratique. Son père, en prenant possession du domaine après la mort de l'oncle, avait voulu l'effacer. Mais cheminée et château étaient inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il avait dû se contenter d'un voile pudique que le fils s'empressait de soulever à chaque fois qu'il faisait visiter les lieux. Un peu déconcerté, ne sachant pas s'il fallait rire ou s'offusquer, Antonia leva les yeux. Philippe guettait son regard pour y trouver l'étincelle qu'il pensait y avoir allumée. Mais la jeune femme ne le voyait plus. Dans le miroir, elle venait d'apercevoir le visage de Sabine, qui s'était approchée en silence pendant que son mari exécutait son numéro favori. Donc voilà les trois personnages du roman de Robert. Alors l'anecdote sur la cheminée, je me suis inspiré d'autres choses. Henri IV avait fait graver quelque chose du même genre sur la cheminée du château de Fervacques. Il avait fait graver « La dame de Fervacques mérite de vives attaques ». Ouais. Et assez curieusement, d'ailleurs, le château de Fervacques a appartenu par la suite au XVIIIe siècle à Delphine de Custine, qui était la maîtresse une des maîtresses de Chateaubriand.
D'accord.
Ceci pour l'anecdote.
Ah, oui. Ouais. Donc, La Dame de Valomont de Raymond Hisse. Alors, qu'on peut trouver où, Raymond ?
Oh ben, vous pouvez le commander en librairie. Et sinon, vous allez par Internet, vous allez sur edilivres.com, où maintenant, il est sorti au mois de mars, donc il va pas tarder à être accessible sur Amazon ou sur chapitre.com.
D'accord. Et tu as un site Internet ?
Oui, alors, oui, j'ai oublié. Effectivement, vous pouvez avoir toutes ces informations, lire des extraits, lire des avis, lire également des critiques sur les autres ouvrages, sur les ouvrages antérieurs, sur mon site internet rayjos.com, rayjos.com.
D'accord. Et maintenant, donc, on va continuer à voyager. Donc, c'est là de la bicyclette avec Bourville qui nous entraîne sur son vélo.
Le vélo. Ah oui, parce que je suis souple, mais alors forcément, ça me va bien, ça. J'étais formidable, je peux dire que j'étais le roi. Ah oui. Lui, mon adversaire, lui, il bluffait un peu, il se faisait appeler le Léder. Bon, c'est bien, le Léder. qui s'appelle n'importe comment, moi, c'est pas ça qui me dérangeait, hein. Alors, nous, là, sur la ligne de départ. Alors, tout Léder qu'il était, n'est-ce pas, il prend la tête. Alors, moi, sans m'en faire, je me mets derrière. Pensez bien, tel que je me connaissais, j'avais pas à m'en faire. Hein, dites. Hein? Vous me connaissez, hein? Je souriais doucement. Enfin, il pédalait. Je pédalais, il se dépêchait. Je me dépêchais. Plus qu'il l'émouvait, plus que je l'émouvais. Alors, il pouvait pas me décoller. Même à un moment, ça n'y a pas plu. Dans un tournant, il m'a fait un coup de l'aider. Avec sa roue arrière, il m'a pris ma roue avant. Ça fait que j'ai fait le tournant un peu plus grand que j'aurais voulu. Puis justement là, il y avait une haie. Puis comme un fait exprès, on aurait dit que la haie, elle était trop près. Alors vous comprenez, quand la haie, je l'ai bien vue. Je peux pas dire que je l'ai pas vue. Au contraire, j'avais l'impression qu'elle se foutait dans moi. Mais quand j'ai touché un peu, pas beaucoup, un petit peu avec la tête, je suis passé à travers. Parce que c'était une haie d'épine, n'est-ce pas? Alors ça se prête facilement. Alors elle s'est refermée, la haie s'est refermée derrière moi. Et puis j'étais resté enfermé dans l'herbage. Puis pour une fois que je mettais un petit tricot rouge, il y avait un taureau dans l'herbage. Alors, vous pensez si j'ai eu peur? Vous parlez si je l'ai remouvé? Oh, heureusement que je suis soupe. Oui. Mais un taureau, c'est soupe aussi, hein. Oh, oui. Il était là tout près, derrière, il galopait derrière moi. Vous parlez si j'ai eu peur? Oh là là. Vous savez, on a beau être le roi de la pédale, c'est pas pour ça qu'on galope plus vite qu'un taureau. Ah, non. Je sentais ses naseaux tout près, là. C'était le moment de dire, et il m'essoufflait pour que j'aille plus vite. À un moment, il a eu un coup de tête, parce que les taureaux, ils ont des coups de tête terribles, n'est-ce pas? Il m'a pris comme ça par derrière, puis boum! Il m'a mis par-dessus l'œil. Alors, comme je suis persévérant, je vais continuer la course. Mais sur mon vélo, j'avais toujours ce cauchemar, là, vous savez, le taureau, là, comme ça, là, vous savez. J'étais embarrassé. Mais quand même, je suis arrivé. Ah oui, je n'ai pas eu plus longtemps à arriver. La course était finie aussi. Puis tout le monde rigolait parce que mon pantalon était déchiré. Je m'en étais pas aperçu, il ne faisait pas de vent. Puis il y a ma mère qui était là, elle me dit, alors mon roi de la pédale, t'as vu ton postérieur? Je dis, oui maman, qu'est-ce que tu veux, c'est le métier qui rentre.
Inoubliable Bourvil. Alors, les activités des sociétés littéraires de la région, donc il y a une fédération qui s'appelle le Falilor, qui regroupe toutes les associations littéraires et qui organise des salons principalement, donc auxquels bien sûr vous êtes invités et dans lesquels on trouvera Raymond Hiss et d'autres auteurs de Nancy et de la région. Alors, les prochains salons littéraires qui existent. Ce sera le 18 mai au Beffroi de Thionville. Alors là, c'est un salon littéraire organisé par le Centre européen pour la promotion des arts et des lettres. Donc c'est le CEPAL. C'est une association qui est membre de la Fédération des associations littéraires de Lorraine. Donc on vous attend tous à partir de 10h le dimanche 18 mai au Beffroi de Thionville. Autre salon organisé dans le cadre de Falilor, alors c'est les samedis 14 et dimanche 15 juin au cloître des Récollets à Metz. Alors là, on accueillera plus de 70 auteurs et ce sera sous la présidence de Denis Robert, qui est l'auteur, le journaliste connu. Donc là, c'est pareil, donc il y aura des conférences, il y aura des auteurs, etc. Vous pouvez venir le samedi ou le dimanche. D'autres salons, alors dimanche 1er juin, le troisième salon de l'auto-édition et de la petite édition, c'est à Je sais. Et le salon s'appelle Je sais lire. Je sais, c'est à côté d'Épinal. Et là, 22 auteurs sont attendus. Et je voudrais mentionner aussi donc les rendez-vous de Cathy Lobby. C'est chaque mois, c'est au Bistrot Erré. Et le prochain, ce sera le mardi. Alors j'ai noté quelque part le mardi 6 mai à 18h au Bistrot Erré. Et l'écrivain qui est invité, c'est Patrick Marx, qui nous parlera des remèdes de bonne femme et remèdes d'apothicaire. Donc, c'est aux éditions Vent d'Est. Donc, c'est un auteur aussi qui a fait pas mal d'ouvrages sur la région. Et donc, tous les mois, c'est Cathy Lobby et son association qui s'appelle Des Arts et des Mots présente un auteur au Café Erré qui est dans la rue Erré. Il y a aussi alors les rencontres de la Dille. Là, c'est le deuxième jeudi de chaque mois. C'est à la MJC Bourgard. Donc la prochaine rencontre, ce sera le jeudi 15 mai à 18h30. Et là, on recevra Michel Caffier, qui est l'auteur bien connu, l'auteur lorrain qui est né à Boulogne, qui a écrit de nombreux ouvrages sur la Lorraine, donc qui nous parlera de son œuvre en général. Bon. Et généralement, après, il y a les dames de la MJC Bourgard qui nous offrent des crêpes ou des madeleines, et on boit un coup de cidre en compagnie de l'auteur. Je voudrais revenir sur les bistrots littéraires de Cathy Lobby. Donc, il y a une adresse. Bon, si vous voulez vous inscrire, on peut vous envoyer un petit mail, c'est cathy.peinture, alors K-A-T-Y peinture, @free.fr. Et après l'exposé de l'auteur, on peut rester et on peut dîner au bistrot Erré. C'est des menus qui s'échelonnent entre 20 et 25 euros. Pour passer la soirée en compagnie de l'auteur, c'est très agréable. Voilà les nouvelles de Falilor. Alors, je vois que mon deuxième invité est arrivé, coup de chance. Alors, pendant qu'il s'installe, on va passer un disque qui va mettre de l'ambiance. C'est une chanson de Boris Vian. Je vais accueillir mon autre auteur.
Quand on est tout blasé, quand on a tout usé, le vin, l'amour, les cartes, quand on a perdu le vice, des bisques, des crevisses, des rillettes, de la sarte, quand la vue d'un striptease vous fait dire quelle bêtise, vont-ils trouver autre chose? Il reste encore un truc qui n'est jamais caduc pour voir la vie en rose. Une bonne paire de claques dans la gueule, un bon coup de savate, oule dans les fesses, un marron sur les mandibules, oh ça vous fait une deuxième jeunesse, une bonne paire de claques, aïe aïe, dans la gueule, indirect au creux, l'estomac, les orteils coincés sous une meule, un coup de latte en plein guêne. Ça enterre tout, la drogue et l'aspirine, les épinards, la chenouf et la badoie. C'est bien plus bad que le foie en terrine, car c'est moins cher et ça n'alourdit pas. Une bonne paire de claques, oula, dans la gueule, et la fille reprend tout son prix. Chaque matin, quand on se sent seul, claquons-nous la gueule entre amis. Quand elle a foutu le camp en emportant l'argent et la machine à coudre, en vous laissant l'évier plein de vaisselle pas lavée et le sel dans le sucre en poudre. Quand votre meilleur copain téléphone le lendemain en disant « Viens la reprendre oh !» On ricane et l'on pense « Attends un peu Hortense, qu'est-ce que tu vas prendre ?» Une bonne paire de claques dans la gueule, un bon coup de sabbat, oula, dans les fesses, un marron sur les mandibules, et ça te fera une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques, aïe, 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 dans la gueule, indirect au creux, l'estomac, les orteils coincés sous une meule, un coup de pompe en plein taillade. Tu t'ennuyais dans la petite chambre, tu soupirais, tu voulais du nouveau. Dorénavant, de janvier à décembre, compte sur moi pour t'offrir un gogo. Une bonne paire de claques dans la gueule, et ça me consolera.
ma chérie. Des soirées où tu manœuvrais le rouleau à pâtisserie.
Voilà, Henri Salvador qui chante Boris Vian pour nous mettre dans l'ambiance. Alors, du second livre dont on va parler, ce sont les grands succès du cinéma introuvable aux éditions Fluide Glacial. Et pour nous parler de ce livre, je reçois, alors, qu'est-ce qu'on va dire, le metteur en scène, le metteur en page, le...
Le nègre.
Je reçois Gérard Villiers-Babel qui a travaillé chez Fluide Glacial pour travailler sur ce livre. Alors Gérard, raconte-nous un peu l'histoire de ce bouquin.
Alors Dylan Pellot, qui est l'auteur, le véritable auteur de ce livre, a travaillé pendant 10 à 15 ans, bon, je donne toujours une durée différente, mais entre 10 et 15 ans sur ce projet-là. C'est donc un projet de fausses affiches, de faux films, avec donc photos, acteurs, tout le tralala, donc tout ce qu'il faut pour faire du cinéma, sauf les films eux-mêmes.
Il y a tout le dossier de presse, sauf le film.
Voilà, exactement, c'est, voilà. En gros, c'est ça.
Ouais.
Et donc, il a travaillé pendant une quinzaine d'années, d'abord en faisant des recherches, parce que d'abord, Dylan était un gros cinéphile, un vrai cinéphile, même si j'ose dire. Et puis, il a fait d'abord ses recherches sur les affiches, parce que tout ce qu'il a pastiché, quasiment tout, des fois il y a des créations, mais quasiment tout, c'est de la pastiche et de la référence, comme Maigret par exemple, et de la référence par période aussi, c'est-à-dire que s'il pastiche un Frankenstein, ça se passera soit dans les années 30, soit dans les années 50, un Tarzan dans les années 30, un Maigret dans les années 60.
Il y a un travail sur l'iconographie, c'est remarquable, voilà, hein, c'est vraiment les affiches comme à l'époque, c'est vraiment le...
Et puis il y a les textes, alors les textes c'est les résumés des films, c'est l'affiche technique.
Et l'affiche technique, et pourquoi le film n'a pas été distribué.
Pourquoi le film n'a pas été distribué, pourquoi le film n'est jamais sorti, puisque c'est donc, on parle de cinéma introuvable. Alors des fois le film est sorti et distribué, enfin il y a plusieurs cas de figure.
Oui.
Il y a le cas où le film ne s'est même pas fait, et puis jusqu'au cas où le film est sorti, a eu une exploitation, et puis il est parti au bout d'un jour, il a fini à la poubelle ou autre.
Et là, bon, si vous voulez vous payer une bonne tranche de rigolade, alors, par exemple, il y a toute la série, c'est encore pire que les films Western Spaghetti, c'est les Western Spätzle qui sont faits en Alsace, et dont tous les films ont été perdus, parce qu'ils ont été entreposés, je ne sais plus, dans des bacs de vinaigre, enfin, je sais plus ce qui se passe, enfin, c'est vraiment...
C'est ça. Y a aussi
Gérard.
J'aime bien le E. C'est la cinquième lettre de l'alphabet, j'aime beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que par exemple les Tarzan, c'est vraiment vraiment là une pastiche hyper fidèle au code. Sauf que c'est n'importe quoi. C'est Tarzan et sa campagne. Tarzan qui finalement est le fils d'un riche paysan et qui revient de la savane pour aller dans une campagne, alors je sais même plus où, un film d'Émile Moulinet, donc une référence à Émile, je sais plus le nom d'ailleurs.
Ce qui est le plus important quand même, c'est que tous ces fausses affiches et ces fausses photographies, tous ces montages, ont été faits à Nancy. Donc on retrouve tous ces copains de bistrot au fil des pages, quoi, voilà.
Oui, c'est tous les copains, moi-même, vous-même, Charles Ancé, tous les copains, les proches ont tourné, on peut dire comme ça, dans les films, c'est-à-dire qu'en fait, il prenait un copain, il le grimait, il le costumait au besoin, et il le prenait seul sur un fond blanc avec son appareil, il prenait tous les acteurs séparément, ce qui fait que la plupart du temps, on ne s'est pas rencontrés, et c'est comme ça que... qui faisait son... Après, il faisait un compositing, c'est-à-dire qu'il détourait les bonhommes, il faisait des décors, il faisait faire des fois des décors en maquette, en modèle réduit, et puis des maquettes, des monstres en pâte à modeler ou autre. C'était un vrai travail, comme au cinéma, avec du compositing d'images, parfois, des fois, avec... plusieurs plans.
Alors, le bouquin démarre bien, il y a eu plusieurs critiques. Le Nouvel Obs en a parlé. L'Express, cette semaine, fait un papier dessus. Il y a une critique qui m'a fait rigoler, c'est Ruquier. Alors lui, il n'a pas compris, il en a parlé comme si c'était vraiment des films qui existaient. Alors là, vraiment, c'était le...
Ruquier a cru que c'était des vrais films. Et ce qui est vraiment le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'il l'a cru en lisant la quatrième de couverture, qui est le seul passage qui n'est pas écrit par Dylan et qui est écrit par l'éditeur lui-même, qui lui ne souhaitait qu'on pense que c'est du faux.
Alors non, mais je voudrais retrouver quand même ce truc des Western Spätzle pour lire quand même comment a été exploité le film. Je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, les Western Spätzle. Alors il y a l'homme au colt à facettes, on l'appelle plus mais il revient encore.
Il vient quand même.
Ouais.
Alors, quand les Colts chantent la mort, on l'appelle chef d'orchestre.
On l'appelle plus, mais il vient quand même. Bon, alors je vais en lire un quand même. Bon, ils sont trop drôles, quoi. Voilà. Alors, autour du film. Alors, c'est vraiment présenté comme une encyclopédie de cinéma avec les photos du film, etc. Alors, après plus de 5 années à réaliser les somptueux westerns Z, alors c'est vraiment tel qu'il était, il était plein de fois dans l'Ouest, ou pour une bouchée de molars. Sergio Deacon passe à la production et écrit le scénario de « On l'appelle plus, mais il vient quand même », qu'il confie à son premier assistant, Tanana Valérien, tout juste âgé de 20 ans. On retrouve donc dans ce film tous les ingrédients qui ont rendu célèbre Sergio Deacon. Des plans interminables, une Amérique complètement fantasmée, tous les habitants de la ville sont habillés en cow-boys et passent leur temps à se défier en duel. Et les personnages principaux ont généralement le visage sale et les gifles pleuvent abondamment surbruitées. Mais là où le maître du western Z déçoit, dans la réalisation et la direction d'acteurs amateurs, l'élève excelle et nous avons droit à un vrai moment de comédie familiale. Certes, le jeu est quelque peu grossier, mais il fait mouche et on se laisse sourire aux gaffes commises par l'inconnu qui ne se souvient plus de son nom, et sa colère intérieure est la colère intérieure du pauvre Jacques Beaupère. Fort du succès totalisant plus de 5000 entrées, Sergio Deacon décide d'en produire une suite illico. Rappelons qu'il était directeur d'une salle de cinéma à Rome et que les films qu'il produisait et réalisait n'étaient programmés que dans sa salle durant les périodes d'été. Voilà. Donc voilà, bon, pour donner le ton de tous ces films-là. Alors, lesquels qui t'ont plu le plus dans ce que tu as produit ? Parce que là, tu en as choisi une cinquantaine, mais il y en a 150 au moins.
Oui, il y en a 150. Ne figure pas dans le bouquin Barbecue Rella, La Guerre du Fumé.
Ah oui, il y a aussi la série de Sissi qui est pas mal. La version porno de Sissi sauteuse.
C'est pas la version porno, c'est la version horreur.
Ah voilà.
Enfin, horreur un peu porno, comme s'il y avait ce genre... était assez courant. Mais c'est les titres, quoi. Si sauteuse, si circulaire.
Mais alors, comment le choix était difficile, hein? Comment t'as procédé?
Le choix, j'ai procédé un peu à la hache, quoi, parce que il fallait que j'en trouve 80. J'ai mis tout de suite les 10 qui me paraissaient absolument incontournables, quelques-uns que moi j'aimais, bien sûr. Et puis après, j'ai essayé de pas forcément prendre les meilleurs. Mais disons que de toute façon, j'ai procédé par lot, parce que souvent, il y a un réalisateur en a fait 4 ou 5, donc je suis obligé de prendre les 5. Si j'en parle d'un, je suis obligé de parler des autres. Les 6, je peux pas en prendre un seul, par exemple.
Et les éditions Fluide Glacial t'ont laissé champ libre pour...
Ils m'ont laissé champ libre. Ils m'ont juste imposé le format, le prix. C'est-à-dire qu'on pouvait pas on pouvait pas faire le projet de Dylan, qui était une encyclopédie, un pavé à 50 euros, qui aurait été en l'état difficile à vendre. Donc c'est eux qui m'ont imposé ce format-là. Donc j'ai dû couper à la moitié, on va dire, quasiment. Mmh. Et en espérant, si ça se vend bien, qu'on puisse faire un deuxième tome.
Tu as fait le festival de Metz cette semaine.
Oui.
Alors, tu as rencontré ton public. Qui est-ce qui
J'ai rencontré le public. Tout le monde. En fait, y a évidemment quelques fans de Film Z. Mais il y a aussi... j'ai eu pas mal de chalands, que j'ai harangués, j'avoue, qui feuilletaient le machin, se fendaient la gueule, faisaient un tour, repassaient et finalement achetaient.
Ouais. Donc, pour conclure sur le livre de Dylan, voilà les clowns.
S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Ma che m'ha fatto di male sta povera creatura? Ma che m'ha fatto di male sta povera creatura? Ma che ci avete da ridere, portagli iettatura? Ma che ci avete da ridere, portagli iettatura? D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Se voi non comprendete, si voi ne comprenez pas. Se voi non comprendete, si voi ne comprenez pas. Almeno non ridete, o moins non riez pas. Almeno non ridete, o moins non riez pas. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort.
Là, c'est...
que j'ai l'habitude, je peux parler là, oui. C'était donc, je disais, c'est en hommage au Didiche, Dylan Pelot, le clown est mort. Voilà, donc Gérard, tu travailles chez Fluide Glacial, et oui. Tu travailles actuellement sur d'autres productions, notamment, il y a dans les cartons un Gottlieb qui doit sortir.
Ah bah oui.
Bon, Gottlieb, il dessine plus, comment tu fais? Tu le forces à dessiner
Ouais, bah tu vois, c'est grâce à Dylan que je bosse à Fluide, enfin grâce ou à cause plutôt, je préfère dire à cause. Et je vois un monsieur qui se marre bien en lisant le bouquin. J'ai bossé sur Gottlieb là, sur un numéro très spécial, un crossover comme on dit à la télévision entre Pilote et Fluide Glacial, historique d'ailleurs. Et qui est Pilote étant le magazine où Gottlieb
où
il s'est vraiment épanoui avec Goscinny et puis après tout seul, et puis Fluide étant le magazine qu'il a créé
dans les années 75 par là.
Et Gottlieb, tu disais, il dessine plus, et non, on le force pas à dessiner, d'ailleurs on le voit quasiment plus à Fluide Glacial, il a quand même 80 ans, enfin il va avoir 80 ans.
Mais tu as été le rencontrer quand même pour...
Je l'ai rencontré, oui, entre le jour où Pilote est sorti d'ailleurs. Et j'étais un peu en contact avec lui pendant qu'on a travaillé. Bah, Gottlieb, il a 80 ans et malheureusement
parce
il est fait.
Parce que j'ai vu des photos, il a appareillé.
Disons que c'est simple, comme la plupart de ses collègues, il fumait beaucoup, mais lui particulièrement beaucoup, du genre 3 paquets de brunes par jour et dans un atelier confiné. Donc ce qui se passe, c'est qu'à 80 ans, on fait de l'emphysème et on est pareil. Et il a arrêté de fumer vers 50 ans, mais bon, enfin, le mal était fait, quoi.
Et là, il dessine plus du tout,
il dessine plus depuis à peu près la même date. C'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, il a quasiment 50, il a posé le crayon, puis c'était fini.
Ah oui, je pensais qu'il avait fait des dessins plus.
Mais tout le monde pensait que. Mais le truc, c'est que dans un de ses bouquins, Cabu raconte « Mais pourquoi tu dessines plus ?» Et Gottlieb lui répond « J'ai dessiné en 20 ans ce que d'autres ont fait en 40. » Et
donc
il n'avait pas tort. Hein.
Tu peux ressortir des cartons, des inédits, des choses comme ça, non?
Et en fait, non, quasiment tout a été édité. Ah et oui. Là, si, on a trouvé quelques inédits, mais pas de planches, en tout cas. Des dessins, des textes, ce genre de choses. Mais non, des inédits, il n'y en a plus. Puis Dargaud a quasiment tout édité. Si, il y en a encore, mais c'est vraiment des illustrations, ce genre de choses. Mais des BD, non.
Donc ça sort quand c'est un album quoi,
alors donc là il y a un album donc qui sort en juin, donc en plus du pilote. Le pilote marche très bien, il va être édité en cartonné en septembre et donc avec 4 pages en plus.
Mais comment ça se passe parce que c'est deux maisons d'édition différentes, comment ça se passe? Vous en créez une troisième pour vous mettre d'accord ou...
Non, je pense...
C'est Dargaud là.
Alors par exemple pour la fabrication, on en a travaillé ensemble à 50-50. Donc sous ma direction, celle de Yann et Osterman, qui est le patron de Dargaud, Yann étant le patron de Flute, je précise. Oui. Mais la fabrication, c'est... par exemple, Dargaud a fait la maquette pour le pilote fluide, et le maquettiste et le DA étaient chez Dargaud, le directeur artistique, et en revanche, la fabrication s'est faite chez Fluide. Alors je pense que pour le cartonné, ce sera pareil, il y a juste la fabrication qui sera chez Fluide. En revanche, pour l'album, ça c'est du fluide glacial pur. Ça racontera Gottlieb chez Fluide, sa création de Fluide.
D'accord.
En gros, le thème c'est Gottlieb le patron, quoi. Alors un agencement, on va dire, du bordélique rangé, c'est-à-dire qu'on va faire... J'avais quand même un spectre de 200 fluides glaciales dans lequel il a participé, activement, je veux dire. Donc il y aura beaucoup d'éditos, quelques dessins, quelques planches plus ou moins inédites. Alors, ce sera long à expliquer, mais il y aura des planches qui sont en tout cas rares, qu'on n'a pas beaucoup vues. Et puis beaucoup de planches, alors là, inédites pour le coup, mais dont il est scénariste. Où les dessinateurs sont Cabane, Franquin, Haussmann...
Et puis beaucoup Solé, il a fait beaucoup les Super
Solé,
Dupont,
ouais,
Alexis,
voilà.
Tout ça.
Donc il y aura du Solé, il y aura du Franquin, il y aura du Haussmann, puis dessinateurs qu'on ne voyait plus de trop, enfin de fluide, quoi. Donc ça, ce sera inédit. Et donc, ça s'agençait comment? C'est simple, j'ai pris des grands thèmes. Les enfants, la télévision, la radio. Puis j'ai mis un point d'honneur à faire deux chapitres qui s'appelleront le premier « Pipi caca prout » et l'autre « Bitcoin nichon ».
Bien vu, ça s'impose. Oui,
voilà.
Très bien. Voilà, donc, alors j'ai essayé de remplacer Yves, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop d'avoir massacré son émission. En attendant qu'il se rétablisse, l'émission Marque-Page sera animée par des animateurs bénévoles. Donc, si vous avez envie de venir parler d'un bouquin, l'antenne vous est ouverte sur 90.7. Merci Mathieu. Oui Gérard, tu
veux... Non, je voulais juste, ma fille voulait que je passe un petit bonjour à Jean-Pierre Liégeois.
Très bien, bonjour Jean-Pierre. Voilà. Merci.